qui est celui d'effectivement notre soma, notre corps, notre antériorité. Et je vais essayer donc de travailler avec vous concernant les représentations de ce corps et la façon dont il intervient dans notre rapport à l'habitat familial. La première question est de savoir si notre représentation du corps, notre image corporelle, est susceptible d'intervenir dans l'espace du groupe, lequel étant que le corps est pour l'essentiel individuel. Notre organisme est autonome dans son fonctionnement, bien qu'il ait besoin des apports nutritionnels et émotionnels de l'extérieur, parmi tant d'autres. Paul Schilder avait suggéré que cette image tend à s'externaliser vers le monde impliquant autrui. Les rapports entre notre corps et celui des personnes de notre entourage s'inscrivent aussi dans notre inconscient et contribuent à la représentation que nous nous forgeons d'eux. Ce sont des expériences des plaisirs, des soutiens, des stimulations qui se rattachent à celles et celles qui les ont procurées, facilitées ou entravées. Notre image du corps s'enrichit de ses relations et de ses liens. Ainsi est-il de l'identité personnelle. Notre identité est en lien avec l'image de notre corps et les liens sociaux. Chaque connaissance nouvelle, et j'ai pas avancé. Non, ça va, les autres. Chaque connaissance nouvelle nous procure le sentiment, je vais tout contrôler. D'accord. Tiens. Mon identité étant récupérée, j'ai peut-être cédé ces précieux appareils. Donc, chaque connaissance nouvelle nous procure le sentiment que notre corps, puis notre identité, s'enrichissent, se répandent, incluant l'identité d'autrui, la manière dont nous les reconnaissons et dont nous pensons qu'autrui qu'il nous perçoit, ce que nous représentons pour lui. L'image d'un corps uni et contenu par un moi-peau nous rassure dans toutes circonstances. Nous n'allons pas perdre notre substance ou la mélanger avec celle des autres. Nous savons que nous sommes qui nous sommes et qui est autrui. Mais nous avons appris à relativiser cette singularité. En découvrant que les autres peuvent être en même temps proches et différents de nous, nous admettons que nous ne sommes pas uniques et exceptionnels. En même temps, nous sommes amenés à considérer notre représentation de l'environnement. Nous sommes moins seuls. Notre corps va loin, plus loin que nous le croyons, avant d'avoir pris conscience que notre corps est en lien avec celui des autres. Notre image du corps se projette imaginant suivre les chemins que chaque nouvelle connaissance arpente, les lieux qu'elle fréquente et habite. Selon Schilder, nous établissons des rapports entre l'espace de notre corps et les objets qui nous entourent, avec les contenants comme chaises, pièces, passages, encadrements. Grâce à cette image, nous savons qu'il nous est possible de franchir une porte, de monter sur la passerelle d'un pont si une chaise va supporter notre poids. De même, nous avons l'impression que notre représentation du corps change de dimension si nous visitons d'autres lieux, pays, et si nous initions à la plongée, à la scalade, ou au transculturel, comme on a tellement parlé ce matin. Chaque acquis modifie l'ensemble de nos données psychiques et symboliques sur l'étendue de nos possibilités. Les liens entre sentiments d'identité et image du corps s'y expriment. Le premier instruit la seconde, la nourrit et la développe et réciproquement. Dans la dernière partie de son ouvrage, des considérations sociales et symboliques conduisent Schilder à envisager que notre corps s'étend si nous rencontrons des personnes autres, d'autres pays et d'autres continents, si nous apprenons que nous avons des parents qui vivent ailleurs ou qu'ils ont été perdus de vue, ignorés ou cachés. Nous avons désormais les sentiments de les englober. Schilder envisage donc le corps dans une perspective des liens groupales intersubjectifs. Les traces amnésiques des contacts physiques entre nous et les autres sujets contribuent à l'intégration de notre faculté à nous percevoir. La distinction entre corps érotique et somatique mérite notre attention. Par corps érotique, on entend celui des expériences sensorielles qui procurent un plaisir intense et sensuel et qui ont une fonction dans l'organisation de notre psychisme lors de notre développement. Puis, ils ont évolué en subsistance, une fois adultes, sous des formes sélectives. Le corps somatique renvoie à la représentation de notre intérieur et de ses fonctions, alimentation, respiration, circulation, neuropsychique. Dans le premier cas, les sens, les sensations de la peau et les muqueuses sont actives. Dans le second cas, ce sont les sensations proprioceptives de nos organes, muscles et os qui interviennent. Mais aussi, à partir de là, toute la symbolique, hein, le cœur comme le lieu des sensations, des affects, le cerveau comme le lieu de notre intelligence, mais aussi de notre identité. Dans beaucoup de cultures, on peut imaginer que ce qui nous définit en tant que nous-mêmes est associé au cerveau. Mais des questions se posent. Alors que ces sensations ont une source biologique, comment interviennent-elles dans le fonctionnement du groupe familial? Quel rôle occupe la sensorialité et les mouvements corporels dans celui-ci? Dans l'étude sur l'intimité corporelle en famille, je me suis aventuré à étudier la place de la caresse entre ses membres. Une des caractéristiques est que la caresse établit un territoire et définit une relation, celui du lien entre les personnes qui les échangent. On caresse de façon distincte, selon les liens de parenté et la nature de l'intimité établie. C'est différent selon la fonction paternelle, maternelle, infantile, fraternelle, et selon les genres. Je pense même que la tendresse joue un rôle certain dans la construction de la relation et dans l'identité des genres, parce que la caresse identifie l'autre. Lui dit « Tu es un garçon, tu es une fille, tu es mignon, je t'apprécie, je crois en toi. » Dans la tendresse physique, on admet autrui, on le reconnaît, on lui montre ce que l'on attend de lui. Et voilà cette phrase de Sartre, « Le désir est à la caresse, ce que la pensée est au langage. » Suggestif, n'est-ce pas? En ce qui concerne la fonction de la sensorialité, je rappelle les travaux d'Ophélia Abram sur les groupes, et Obertel, André Fustier, Grandchez-Géral, et André Fustier également sur les familles. Sensibles aux difficultés qui concernent la sensorialité dans la vie psychique de certaines familles, elles ont souligné que celle-ci se manifeste avec fracas afin d'essayer de pallier à la défaillance fantasmatique. Les mots manquent, les images se délitent. Alors on privilégie les bruits du corps au langage incertain, les messages demeurant ambigus. Les odeurs deviennent acceptation ou rejet, la respiration expression émotionnelle, les sueurs état d'âme. Dans ces familles, on semble ignorer que ces messages, trop allusifs, restent énigmatiques pour autrui. Le malentendu est fréquent. Les sujets ne s'engagent pas dans ce qu'ils manifestent. L'autre est en réalité ignoré dans sa singularité. On ne peut imaginer que celui-ci soit incapable de comprendre. Il faut que l'autre sache ou devine ce qu'elle en pense. Le droit à la méconnaissance est pourtant une manifestation de sa liberté. On doit ignorer le nom, car le nom est signe d'existence indépendante. Dans ces contextes groupal et familial, autrui est trop confondu avec soi-même. C'est une indifférenciée ou ne fait pas partie de soi-même. Toutefois, les expressions sensorielles sont présentes dans les situations les plus courantes, en rien pathologique ou symbiotique. En revenant à la maison de ma grand-mère, je sens les odeurs de mon enfance, de la bûche, de la cheminée allumée, des gâteaux que j'adore, les parfums des fleurs desséchées qu'elle collectionne. J'ai pu imaginer qu'elle a préparé ce que j'ai souhaité manger. Il y a dans cette sensorialité une définition du lien et des qualités qu'il évoque. Elle participe à la reconnaissance mutuelle. Il y a des sensations qui vont plus loin que les mots parce qu'elles synthétisent un vécu. une expérience partagée, une symbolique du lien intersubjectif. Les teints changent de la peau. Et la transpiration parle en termes d'appartenance. Les sensations parlent des autres et nous parlent. Elles procurent du plaisir et du déplaisir, du bien-être, du mal-être. Contribuent à notre bonheur. Il y a une multitude de micro-instants de plaisir ou au contraire nous rendre malheureux si notre déplaisir est récurrent. Comme synthèse, on peut préciser que la sensorialité se manifeste soit pour se substituer à la symbolisation, soit pour l'accompagner et la faciliter, la compléter. Je passe maintenant à vous parler de l'hypothèse de l'habitat intérieur et ses fonctions. La représentation du corps configure un pilote, un modèle, une instance. Je souligne tout particulièrement cette idée parce qu'on a tendance à penser en termes de métaphore. Je crois que quand on parle des représentations du corps, quand on parle d'habitat intérieur également, on va au-delà d'une métaphore pour être quelque chose comme un élément qui nous guide, qui nous conduit. C'est pour ça que je parle de pilote. Chaque membre de la famille projette sur la maison l'image de son corps, lui conférant ses qualités de contenance et de solidité, favorisant son organisation pour la transformer en espace de rêve et de créativité. Et dans la mesure où les membres de la famille fonctionnent comme groupe, ils sont susceptibles de contribuer individuellement à un fonctionnement inconscient partagé, je le pense, et ils groupalisent leur vécu corporel, les projectant sur l'habitat de la maison, ce qui développe la représentation d'un havre qui leur appartient. On a vu tout à l'heure l'importance de l'appartenance et cette notion qui est si proche de la possessivité. Faudrait-il encore établir la différence entre possessivité, appartenance et emprise? Mais il faut savoir que nous ne sommes pas seulement des grands mangeurs d'autres et d'autrui, des cannibales, comme disent certains, mais nous sommes aussi des êtres que nous fonctionnons beaucoup en essayant de posséder et de nous approprier des autres. Ceci étant, les limites sont à établir. Ainsi, les membres de la maison rattachent la maison à l'identité commune, au self familial. Que la maison soit investie groupalement, c'est là... ça va parfois trop vite d'ici des côtés. Que la maison soit investie groupalement, cela permet que chacun s'y sente à l'aise, retrouvant un lieu de sérénité, de communication, où l'on peut bâtir des projets communs. À la maison et entre ses membres, l'intimité se développe, les complicités s'épanouissent. C'est du connu et du repérable. On y reconnaît autrui comme proche et différent, membre de la même généalogie et porteur des traces du transgénérationnel, occupant quand même une place singulière, parents, frères, sœurs, enfants. Dans la maison sont réalisées des activités biologiques comme alimentation, sommeil, exogénération, j'ai là un problème, hygiène, sexualité, et en même temps la maison s'ordonne dans son architecture et sa décoration selon justement la représentation que ces fonctions ont dans l'image du corps. Cette hypothèse, je l'ai développée et en inspirant beaucoup des études des architectes et dans le livre « L'inconscient de la maison ». En plus, ces comportements donnent l'occasion des contacts multiples entre ses membres, quotidiennement favorisant leur affiliation. Je souligne ces mots quotidiens parce qu'on nous parle souvent, quand il s'agit des familles, de comment les choses s'originent, et puis des grands thèmes de la transcendance, de leur destin. Mais rarement on étudie ce qui se passe tous les jours et ce que cela crée en termes de liens, en termes d'amour, en termes d'échanges, en termes de savoirs. Donc la corporité familiale joue ainsi une fonction primordiale pour que la tenue de l'édifice contribue à remplir les buts que la famille se donne. Transmettre ses valeurs et son histoire, progresser, se perpétuer. De tous ces buts, la famille trouve, pour ainsi dire, les signes dans les objets matériels qui sont regardés à toute occasion, mais également désinvestis ou carrément oubliés, sujet donc au processus du refoulement et du retour du refoulé. J'avais développé l'idée que nos rapports aux objets de la maison reproduisent ceux du jeu infantile, avec leur dimension de plaisir et de métaphorisation, puis que ces objets matériels, bien que posés sur le meuble ou rangés dans les tiroirs ou dans des meubles, sont vécus dans un mouvement, celui de la fonction à laquelle ils servent ou ont servi. L'habitat intérieur serait alors cette représentation inconsciente de l'espace que l'on habite, nourri des vécus antérieurs depuis celui de la maison natale. Et tout à l'heure, Patrice a beaucoup parlé justement de ce qui construit la maison natale autour de toutes ces dimensions. Et tout cela donc est articulé, cette représentation, avec l'image corporelle et celle de la groupalité familiale. Ce concept nous permet d'intégrer toutes ces variables et toutes les émotions que la maison éveille, nos rires et nos larmes, nos réussites et nos échecs. Pour vous proposer une synthèse, je regroupe dans cinq rubriques les fonctions de l'habitat intérieur et leur dysfonctionnement. La première fonction, donc les cinq fonctions sont contenance, continuité historique, identification et créativité et fonction esthétique. On va les développer un peu rapidement parce que nous n'avons pas le temps d'en donner tous les détails, mais ça vaut la peine justement de montrer leur fonctionnalité. Donc, d'abord la contenance, parce qu'elle protège la famille de l'agitation du monde, qui risque de faire éruption dans la maison, provoquant des déséquilibres émotionnels difficiles à gouverner. Cette fonction joue un rôle de différenciation entre l'extérieur et l'intérieur de la maison, favorisant le développement d'une intimité réconfortante. Dans l'exposé de Birman, peut-être il a dit tellement de choses, mais j'ai trouvé qu'il avait peut-être oublié que lors de la 10e plaie d'Égypte, c'est marqué sur le cadre de la porte. Le sang ne se répand pas seulement, mais je crois que, si je me souviens bien, parce que la Bible, ça fait un bout de temps que je l'ai lue, il a dit ? Ah, donc, j'ai refoulé. Donc, vous voyez effectivement la notion de contenance, de tout ce qui se joue autour des murs, des portes, et avec donc, sans arrêt, ces doubles dimensions, ces va-et-vient entre la réalité objective et ce que nous ressentons par rapport à cette réalité objective. Donc, le dérèglement de la contenance provoque de la confusion entre les mondes familial et extérieur. Les mondes des familles d'origine, du travail, de l'école, du voisinage. Les membres de la famille se sentent peu rassurés lorsque cette fonction est défaillante. Leur sentiment d'identité collective, individuelle, empathie. Ils deviennent peu sûrs d'eux et perdent confiance l'un des autres. S'ils trouvent des assises rassurantes ailleurs, auprès d'autres proches ou étrangers, cela les réconforte, mais pour peu de temps. Ils se vivent comme obligés à se coller à eux, des craintes de perdre leur soutien. Sinon, apparaissent des sentiments de persécution, les parois deviennent poreuses, perméables, on entend des messages menaçants sous forme de bruits bizarres. On soupçonne que les canalisations d'eau ont été empoisonnées. On ne peut plus tellement compter sur le moins pot familial pour se structurer. La deuxième fonction est d'identification. Toujours, je pense identification dans ses multiples dimensions. Je m'identifie, j'identifie les autres. La deuxième donc, fonction est d'identification. Par cela, la famille a ses marques dans la maison. Chacun y établit ses quartiers, bien qu'à l'intérieur de la maison, il ait son territoire. Cela traduit ses goûts, ses préférences personnelles, ainsi que les alliances entre ses membres. L'habitat révèle aussi bien la maison commune que la maison à soi, et c'est pour chaque résident. Si cette fonction est déréglée, les membres de la famille perdent les repères identitaires. D'ordinaire, un équilibre s'établit entre les territoires communs et les territoires personnels. Si cet équilibre est rompu, on ne peut vivre la recherche de son espace comme une tentative de se restaurer au contact de ces objets et jouant avec eux comme des objets intermédiaires. La vie commune est désinvestie. On désolidarise les soucis des autres, on se replie sur soi, comparant des pis sentimentales. Lorsqu'il sait à se ressourcer, cet auto-érotisme est ressenti par les autres comme une violence faite au groupe. Ces malentendus alimentent la mésentente. On le voit beaucoup dans les familles immigrantes. Effectivement, il y a un décalage entre la génération des parents qui sont souvent venus d'autres cultures et les enfants qui sont à cheval entre la culture de leurs parents et la culture du pays d'accueil, et comment ils les investissent, les cadres de la maison, ils n'identifient plus comme leur cadre, ils cherchent des ailleurs chez les autres, et surtout dans ces immeubles, et souvent si peu esthétiques, des grands immeubles de banlieue, où c'est les lieux communs, et les couloirs, les halls d'entrée qui deviennent pour eux leur véritable maison. Parlons maintenant de la fonction créatrice. Non, continuité historique. Ou la mémoire, bon, je l'ai donné peut-être par sous-entendu que vous voyez très très bien comment la maison repère l'histoire de chacun. Ce sont à la fois les éléments qui s'étalent devant nos yeux, les objets, ce sont les différents éléments, mais qui sont très importants pour que l'on puisse sentir, la vie familiale et notre famille, notre identité à l'intérieur de la maison, comme quelque chose qui continue. Il est certain que dans les crises, tout particulièrement, cette dimension se perd. Et il apparaît à ces moments que la fonction historisante peut se détériorer dans les cas de la construction d'une histoire délirante, comme un roman psychotique où les attaches n'existent plus, les filiations s'imaginent avoir été tissées ailleurs. La fonction créatrice, la distribution des lieux, les choix des tentures et des objets implique une nouveauté par rapport aux représentations dont ils s'inspirent. On agence l'espace de la maison selon la configuration des fonctions au sein de la parenté, attachement, rivalité, accord secret, alliance. Placer les objets, les déplacer et déjà modifier leur représentation. L'action sur les objets de la maison permet des découvertes intéressantes. Madame Pompidou expliquait que le couple, qui avait beaucoup de tableaux chez eux, passait les nuits à déplacer les tableaux. Ils avaient toute une collection, ils l'ont toujours, je crois, cette collection existe, d'art contemporain. Et on sent bien, mais je ne sais pas ce qu'ils disaient les voisins, hein, peut-être que ce n'était pas confortable pour eux. Oui. Mais il y avait là, pour l'homme qui était si occupé, qui était Premier ministre, et il pouvait à ces moments se restaurer, se retrouver justement dans cette créativité. Ce n'était pas leur tableau, ce n'était pas les tableaux qu'ils avaient peints eux-mêmes, mais les positionner les uns par rapport aux autres, les revoir, etc. Cela impliquait pour eux la possibilité de se retrouver. Quand cette fonction est compromise, la maison ressemble un lieu monotone et sans âme. Les rapports entre ses habitants peuvent s'enveminer. Enfin, la fonction esthétique, elle vise à rechercher la beauté dans l'harmonie des formes pour le plaisir de tous. Les membres de la famille s'amusent à être comme des artistes, exprimant leur passion envers les lieux qu'ils ont compris comme étant le reflet de leur corps commun et partagé. Cette fonction est très sensible lors des crises et traumatismes qui, comme on sait, affectent les narcissismes constructifs. Créer du beau, c'est se permettre d'approcher la perfection sans être pour autant vaniteux. C'est s'autoriser à rêver. Les attentes du narcissisme semblent perturber, en somme, la fonction esthétique. Il y a effectivement beaucoup de choses qui peut-on dire autour de ces fonctions, mais en général, on a le sentiment que quand une des fonctions est étayante, on fait recours à une autre. Et notamment, j'ai le recours à l'historique, à la mémoire, à ce qu'on a en commun. Chose qui, par ailleurs, me paraît aussi très importante dans notre travail de thérapeute familial. Et pourquoi pas dans ce qu'on peut travailler avec les familles autour de la maison et de son histoire. Mais également dans l'historique, et ça c'est un aparté dont je tiens beaucoup à vous dédire, dans l'historique des ici et maintenant du cadre de la thérapie familiale, avec son lieu et son historique à lui. Cela me paraît aussi très très important et de faire recours à cette dimension, d'abord parce que beaucoup de familles sont très oublieuses et ont tendance à se vivre dans un présent continu, et notamment, et ceci se voit dans les moments où apparaissent les désespoirs. Et les gens oublient souvent d'où ils sont venus et les rappeler autour. Donc faire recours à cette historique de la thérapie familiale me paraît aussi très très important. Rappeler pourquoi ils en étaient là, comme ils étaient avant, etc. Alors, je pense qu'en général, la problématique des contacts quotidiens occupe une place très importante dans la construction de l'habitat et également de cette dimension d'affiliation dont on a déjà beaucoup parlé ici et ce matin même, et pour permettre que les liens se tissent. Et cette fonction de la maison en tant que lieu où les liens se tissent occupe une place très importante dans les familles adoptives et les familles recomposées et les familles homoparentales et toutes celles qui ont fait recours à la procréation médicalement assistée, parce qu'il me semble que ce qu'ils vont gagner de ces contacts multiples autour des tâches quotidiennes, autour de faire des courses ensemble, aussi très très important. Dans une famille que j'ai à ce moment, où il y a un conflit très important entre la belle-mère et les trois enfants du père, qui viennent souvent à la maison, et il apparaissait comme un élément très très important quand la belle-mère et la belle-fille allaient faire des courses ensemble et échanger des connaissances dont l'une et l'autre sont très... et savent beaucoup de choses sur la mode, et autour des courses, faire des courses ensemble. Bon, je crois qu'on peut passer au cas clinique. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. C'est fini? Il me fait des émotions. Dans combien j'ai? On a encore deux, on est riche. Donc, cette famille est une famille qui on a vu avec Daniel Kemener pendant 5 ans et à l'origine. C'est une famille qui présente des maladies neurologiques graves et qui interroge effectivement les rapports au corps familial, les rapports à la maison familiale. Et c'est à ce titre que je vous la présente. Aussi parce que sa trajectoire est très particulière et inhabituelle. Comme il arrive souvent, je crois, dans les familles qui présentent des difficultés physiques et des handicaps notamment, et ne répondent pas à des conceptions structurelles que nous avons et qui viennent généralement des familles psychotiques ou des familles qui ont une symptomatologie psychologique. Je crois qu'on n'est pas encore arrivé à bien préciser cette notion, mais peut-être tous ces cas vont nous permettre, et ces journées vont nous permettre, à établir les différences. Alors, les problèmes qu'ils présentent sont les suivants. Ils viennent pour René, leur adolescent, c'est l'enfant, préadolescent. Et le père a une tumeur bénigne, envahissante du cerveau, et qui a été découverte il y a une dizaine d'années. Il a été opéré partiellement. Il souffre depuis longtemps des paralysies des jambes qui lui permettent néanmoins de se déplacer, bien qu'avec difficulté. Il tombe fréquemment, il se fait des fractures. Depuis peu de temps, à la suite d'une nouvelle hémorragie cérébrale, il présente des troubles de la parole et de la pensée. La mère a aussi une tumeur bénigne localisée au cervelet. Donc déjà, une chose assez, assez curieuse. Ça laisse beaucoup réfléchir et fantasmer autour de cette simultanéité des problématiques. Et cette tumeur est inopérable. On a installé une plaque métallique au niveau de la colonne cervicale pour l'immobiliser, car sa tumeur faisait pression sur les vaisseaux sanguins, produisant des pertes de connaissances, notamment chaque fois qu'elle tournait la tête, aggravant la paralysie de l'un de ses bras. Sa maladie s'est révélée au moment où elle était enceinte de René. Et je vous laisse imaginer les souffrances et les angoisses encourues. Facilitée par le fait que ses tumeurs évoluent lentement, la famille a pu réagir à chaque crise avec une étonnante capacité d'adaptation. Le père a changé de profession pour créer un magasin où il s'est rend irrégulièrement, mais qu'il semble diriger très très bien, parce que malgré sa maladie, il a réussi à faire prospérer cette affaire, offrant à la famille une vie financièrement confortable. Les médecins même semblent s'étonner que la tumeur ne lui handicape pas davantage. Il est présenté au moment, enfin, il y a eu tout ce qui va se passer par la suite, je crois qu'on a contribué peut-être à la stabilité civilisée des symptômes, c'est des énigmes de ces cas. Hein. Et les médecins les présentent comme un cas d'une durée exceptionnelle et qui tient bien pendant quelques temps. Donc la demande de thérapie familiale est liée aux craintes des parents pour l'avenir de l'enfant, un garçon très sage, qui apparaît comme un petit adulte et hyper responsable et qui n'y va pas protester, critiquer, ni rien réclamer pour lui, au moins pendant les premiers mois du traitement. Les parents sont conscients qu'il est impossible qu'ils lui imposent une vie dure et qu'ils lui offrent une image peu favorable à son développement. Une fois la thérapie familiale engagée au rythme mensuel, René va faire des dessins. Et dans ces dessins apparaissent, sont très intéressants, mais nous les interprétons comme un travail groupal. Et il dessine la campagne au champ des cultures différentes, en parcelles de terres bien délimitées. Ce sont des dessins très pleins, très, très remplis. Il y a peu de chemins qui parcourent le dessin. Et un peu de côté, au bout d'un chemin étroit, on aperçoit une toute petite maison avec une cheminée d'où sort un fil de fumée. Elle est reliée par un chemin très étroit à la route principale. Nous interprétons cela, mais d'un point de vue individuel, mais il est facile de saisir comme les garçons représentent ici ce qu'il voit lui-même et en même temps comment la famille se perçoit. Comme cette maison au milieu de la campagne, il semble se vivre isolé dans sa famille et complexe et marqué par la trame serrée des liens entre ses membres, ce qui la rend difficilement pénétrable. La famille aussi est au milieu d'un monde lointain, peu accessible. Alors, les liens transgénérationnels sont d'autant plus intéressants que, encore une fois, la famille va beaucoup nous surprendre, d'une part parce qu'ils ont des rapports entre eux qui sont très affectueux, conscients de leurs limites. Les trois membres de la famille s'entraident avec beaucoup de sollicitude et sans protester. Ils paraissent avoir incorporé l'idée du devoir de façon intégrale. Aucun interstice dans l'ordre qu'ils ont établi ne leur permet de penser à leur situation. À différentes reprises, Madame se montre enjouée, bavarde, sans être toutefois trop excitée. Elle transmet un optimisme et une vitalité qui font oublier la dureté de la situation. Et ce n'est pas discordant. La seule chose qui pourrait la faire chuter, c'est la séparation. Même un éloignement de René ou de son époux, précise-t-elle. On évoque souvent d'autres proches. Jamais on ne les critique. Au contraire, les propos idéalisants sont exprimés pour dire leur sens de la solidarité. Périodiquement, la mère de madame s'installe à la maison s'occupant des tâches quotidiennes. Celle-ci s'est dit soulagée alors qu'elle se concentre sur le magasin. Elle semble revivre, ragaillardie, ainsi que le père et le fils. Et à ces moments, les parents deviennent les enfants. Mais je crois qu'il faut que je fasse une synthèse du cas. C'est D'accord. Ça va pour vous? Vous n'êtes pas trop fatigué? Le café, les madeleines. Oui. Ils se sentent des petits Proust. Oui, non, mais moi je parlerai, mais si vous me donnez l'autorisation, ce n'est pas de problème. Alors, le père, qui est lui-même si malade, pour vous donner un peu comment ça fonctionne, est plus préoccupé par les troubles vasculaires de son propre père, âgé de plus de 90 ans, que par ses propres difficultés. Il ajoute qu'il ne saurait pas supporter sa mort au père. Ces multiples signes de loyauté familiale nous paraissent inhabituels à notre époque. En même temps, les liens restent superficiels et répondant à des valeurs traditionnelles de respect envers les aînés et des rituels de convivialité assez codés, dominés par le don et l'obligation de rendre au nom de la gratitude, même sur le plan des simples visites et invitations. les parents, quand ils parlent de la manière dont ils voient les rapports intergénérationnels de leur propre famille, paraissent dire aux fils et qu'il doit leur être dévoué. En réalité, le repli de ces derniers se révèle être une réaction nécessaire pour atténuer les poids des contraintes. Lors de la période, de cette période, on découvre que René a une maladie de la colonne qui est affaiblie et tendant à se courber, l'oblige à s'accrocher aux meubles et murs pour s'asseoir et se mettre debout. Et on sent dans nos associations comment il lui fallait être malade de quelque chose pour pouvoir accompagner les parents. Et cette maladie est d'autant plus importante qu'elle, on dit d'une part, il a grandi trop vite, et un peu de temps, c'est là la fragilité, comme si on regrettait effectivement que le temps passe et qu'il ne serait plus ce petit enfant qui va accompagner les parents. Et lui, ça lui donne subitement une allure de personne usée, presque comme un vieillard. Maintenant, il a sa propre souffrance physique. Il n'est plus le seul bien portant. La colonne rappelle la tenue droite. Elle permet de porter le regard loin et se sentir sûr de soi. Elle reflète l'estime de soi. Les défaillances dans les os de René parlent de la crise qui traverse la famille et que ses membres ne peuvent admettre verbalement. Tout compte fait, le fonctionnement en cellule a permis aux membres de la famille de s'armer d'énergie pour faire face aux difficultés grandissantes de santé et de s'épauler dans des moments difficiles. La stratégie adaptative est tout à fait remarquable. Alors que le père et la mère étaient des intellectuels, ils sont devenus commerçants au moment de l'apparition des signes neurologiques, en gérant une activité assez prenante malgré leur disponibilité toute relative. Ils étaient assurément portés par l'histoire de leur lignée, où nombre d'ancêtres ont dû s'accommoder des difficultés et ont pu changer de pays et d'orientation dans un esprit qui privilégie la famille et qui ne s'attarde pas sur la nostalgie du passé. Je me demande si cet ensemble des facteurs n'a pas joué une fonction dans l'évolution de la tumeur du père, bien plus lente que dans la majorité des cas semblables. La stabilité de la tumeur de la mère était également étonnante. Ils se sentaient très responsables les uns des autres et irremplaçables. Il fallait tenir coûte que coûte. Et puis, là, ils vont beaucoup parler de la crise initiale, et notamment, il apparaît ce qu'on connaît beaucoup dans les thérapies familiales, on revient sur le passé, on l'aborde de différentes façons, on invente ou on se souvient des choses différentes. Et je crois que c'est cet aspect qui est propre à la narrativité que nous connaissons dans les thérapies, unique dans son genre, et traduit très très bien différentes modalités d'appropriation de ses souvenirs, et notamment le fait qu'il pouvait désormais, parce qu'il nous faisait beaucoup plus confiance, de s'entretenir avec certains aspects de leur passé, notamment ce qui s'est passé au moment où la mère a découvert sa maladie, et donc il n'a pas pu s'occuper matériellement de René quand il était tout petit, et c'est à ce moment que le père a remplacé l'a remplacé souvent et qu'il a permis quand même que les choses évoluent. Et deux ans plus tard, quand le petit avait 2 ans, il a commencé sa propre maladie. Alors, vous voyez là comment les choses se sont aggravées, et c'est à ces moments que la mère est devenue de son propre, elle a dû s'assumer, elle allait agir déjà mieux, et beaucoup de choses sont intervenues dans la dynamique familiale. Et tout ça, on va parler dans un certain nombre de séances, alors qu'apparaît, là, me paraît-il, à parler deux mots sur la situation transférentielle, parce que fantasmatiquement, les thérapeutes apparaissent un tout petit peu plus loin. Les thérapeutes apparaissent comme partageant leur conviction dans l'amélioration du père. Quand madame nous l'a dit, le père et les fils ont acquiescé. C'est-à-dire qu'il apparaît à ces moments comme l'idée que nous partageons une espèce d'illusion groupale, comme quoi il est un miraculé, en quelque sorte, et celle-ci le tient. J'ajoute, les membres de la famille et thérapeutes, nous sommes devenus les adeptes d'un même mouvement des croyants. À ce moment, apparaît encore une autre chose, toujours des rebondissements. Et ils vont décider d'acheter une maison. Alors, effectivement, dans cette maison, il y a toute une série de choses qui vont être racontées, mais elle s'est grande et spacieuse, ayant plusieurs étages, niant quelque part les difficultés de locomotion du père, et qu'ils l'établissent dans plusieurs... Et une fois qu'ils s'aperçoivent, ils sont obligés d'imaginer comment on a mélangé les espaces, les escaliers, les montées, descentes, qu'ils inventent des façons permanentes. Et ils vont donc l'acheter. Et on ne sait pas, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est porté par leurs croyances à réviser, et que même les banquiers sont très optimistes concernant le fait qu'ils vont payer tous les crédits qu'ils ont engagés, car cette maison va coûter très cher. Et ça marche. Tu crois ça marche? C'est à réfléchir, quand même. Et finalement, la vie sociale de René, il va déjà un an plus tard, un an et demi, il va beaucoup plus, il va mieux de sa colonne. Et il a une vie sociale qui se multiplie, qui se diversifie, mais c'est souvent, ses copains sont les enfants des amis des parents, et il y a des membres de la famille. Et pour s'évader un peu du climat familial, notamment une séance où le père a une nouvelle hospitalisation, ils ont décidé, tous les gosses, de faire une nuit blanche. C'est-à-dire, ils vont tous rester dans la chambre de René, et la mère ne trouve pas meilleure idée que descendre de son lit tous les demi-heures pour aller les surveiller et filmer, sous prétexte effectivement, je vais vous filmer, là, comme ça vous allez voir comment vous êtes ensemble, etc. Et garder ces documents précieux que René, toujours très obéissant et très gentil, dit « Ah, c'est très bien, on a vu tout ça », seulement on sent bien l'emprise de la mère qui était quand même quelque chose de très important. Emprise qui va se reproduire également avec le projet qu'il a installé également. Pour que le père n'ait pas à se déplacer, elle va installer un système de vidéo caméra à la maison qui se connecte avec les magasins, qui est à quelques kilomètres, et qui permettent qu'il observe et qu'il suive tout ce qui se passe dedans. Tout cela pour vous donner un peu le climat dans lequel tout cela s'instaure. Et je suis aussi étonné que vous pour voir que ça marche. J'ai conclu. Pour conclure. Soulagement de Jean-Pierre. Ta colonne, après, tu vois. Dans la famille de René, et bien que ses parents se sont trouvés si handicapés, sont actives, transmettant l'essence de la parenté. La notion de l'échange entre générations adopte ici une orientation très particulière. Dévouement entre enfants envers leurs parents, contre accompagnement dans la responsabilité mutuelle. Et elle renforce la notion de précession des générations, soulignant l'aspect tutélaire par la référence éthique aux grands-parents. La thérapie a permis que la fonction parentale se développe davantage. Le contrôle de la mère sur l'adolescent est souligné au cours de la dernière séance rapportée. René s'est quand même négocié sa liberté sans trop heurté. La nuit est pour les jeunes, malgré les caméoscopes. La maison a été témoin de ces drames et de leur évolution. Elle remplit la fonction contenante, puis le geste de l'achat de la nouvelle maison a laissé entendre que la vie continue et que tant que l'on vit, on peut espérer. En l'aménageant, les difficultés physiques ont été très présentes. Cette réalité ne permettait plus de les dénier. Les corps et l'espace ont dû ainsi s'adapter réciproquement. L'habitat intérieur a fini par se lever dans le nouvel espace. Parler du corps ne saurait plus se passer du concept de groupalité familiale et de l'inconscient de la maison. Merci de votre attention. Oh, il n'est pas encore fini, mais je vous suggère très vivement le livre de collectif Corps en famille, qui est un recueil des travaux très intéressants, très novateurs, très créateurs. Voilà, ça nous fait penser toujours. Voilà. Je n'ai pas cité tout le monde, notamment Pierre, j'ai oublié un certain nombre de gens.
Ça y est ?
Ok.
Ça va ? Bon, Pierre, tu souhaites faire écho à ce travail. Moi, bon, ce que vous avez bien vécu, c'est entre nous, c'est un travail de thérapie familiale. C'est aussi. Ouh, ouais, c'est bon. Bon, je pense que l'intérêt de ce travail et du travail dans la continuité d'Alberto fait résonance aussi à ce qui se passe dans le travail de thérapie familiale psychanalytique. Ce que moi j'entends là, et que peut-être on aura l'occasion de reprendre, je vais laisser Henri-Pierre nous faire résonance de ce qu'il a entendu. J'ai essayé de suivre le texte sur cette peau toile, mais je voyais que vous arriviez à écouter facilement Alberto. D'autre part, c'est quand même aussi de voir que ce qu'il écrit, c'est un thérapeute familial psychanalytique, et de quel lieu il en parle, c'est-à-dire aussi du lieu où tu accueilles. Et c'est aussi comment les gens viennent chez nous faire ou pas faire ou défaire le cadre qu'on leur propose pour pouvoir passer en pensée. Et là, moi, je trouve très intéressant, c'est qu'une famille arrive, et c'est en cela que je voudrais que tu puisses aborder, c'est-à-dire comment se met en place un travail aussi difficile dans la question de ces gens par rapport à leur fils et de ce qu'on reçoit. C'est plus une somatisation, c'est somatique, c'est réel. Et on va aller travailler avec eux de comment ils le vivent et comment ils le transmettent. Et en même temps, on voit que là, beaucoup le travail familial, c'est-à-dire ne pas aller du côté de l'adolescent, et pourtant c'est là où ils veulent nous emmener au départ, mais plutôt de reparler de cette famille et comment cette famille va s'ancrer par rapport à son passé pour ne pas être piégée des manifestations opératoires, et où je suis très sensible en tant que médecin aussi, c'est que, en effet, ces gens vont essayer de trouver leur métalangage par rapport au langage très médical qu'ils reçoivent et qui vont lui permettre de s'activer. Et moi, je comprends mieux en quoi le père va aller chercher son propre père et que ça fait assise quand même, alors qu'on voudrait dépasser. On n'est pas dans le passé, on est dans un passé présent, mais qui permet un futur. Enfin, voilà. Bon, un peu ça, et je te laisse. Très bien.
Bon, donc je crois que l'on peut remercier Alberto de nous avoir fait faire un voyage à travers la question de l'archaïque, puisque en t'écoutant, je me disais, j'essayais de reprendre la genèse à travers la maison familiale du destin de la projection, corporelle. La projection corporelle, la question centrale clinique de l'introjection. Et à travers la question de l'introjection, les problématiques de l'introjection et des faillites de l'introjection, puisque tu as parlé des maladies somatiques graves et d'une maladie somatique grave, et je raisonnerai, et ça m'a fait associer par rapport à ma propre clinique, une maladie somatique grave chez l'enfant. Tu as posé beaucoup de questions, donc c'est à ce sens très riche. Sur la question de l'introjection, par exemple, les problématiques de l'introjection, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux travaux d'Abraham et Torok sur la question de l'incorporation, introjection, la question de la crypte. Et j'en parle à dessein dans la seconde partie de ton intervention. Tu parles de cette famille. Et autour de cette famille, tu évoques la question impossible, dans mon écoute, de la perte. Il est impossible de se séparer. Il y a une sorte de résilience groupale, mais il me semble, mais il est impossible de se séparer. Et il y a une espèce de subversion transgénérationnelle, je dirais. Dans l'historicité, il y a le père, être intéressé par son propre père qui risque de disparaître. Il y a le fils. Et c'est comme s'il y avait, une dimension magmatique, où il n'y avait pas de temporalité, parce que c'est bien la question qui est posée dans les maladies graves, somatiques sévères, c'est la question de l'écrasement de la temporalité. Tout d'un coup, l'espace interne n'existe plus. Il est presque sidéré par le réel de la mort, quand même. Alors, c'est ça que m'a évoqué ton intervention, c'est la continuité. Comment restaurer ? Tu renforces ce que je pense, c'est-à-dire que l'on ne peut pas prendre en charge ce type de, de famille où existe une pathologie somatique grave sans reconstituer une enveloppe groupale. D'abord et avant tout, puisque c'est là bien la question du moi-peau collectif familial qui est effracté par la maladie qui surgit. Alors, il y a une question fondamentale qui m'est venue en t'écoutant, et je sais qu'il fait débat, donc je la pose ici, c'est la question de, chez nous, de trouver une causalité psychique à des maladies somatiques. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait, peut-être en est-il, je ne suis pas sûr qu'il y en ait, mais ce dont je suis certain, c'est qu'il y a besoin de trouver un sens à ce qui se passe.
Chez nous.
Il faut besoin de trouver un sens. Et chez eux aussi. C'est-à-dire qu'il y a, comme ça, il y a une subversion du dedans et du dehors. Il faut trouver un sens à l'intérieur du groupe familial, il faut trouver un sens pour ceux qui prennent en charge. Et parce que tu as bien évoqué la question du contre-transfert des thérapeutes, avec moi je l'entends comme ça, l'achat de la maison. Cette résilience groupale familiale permet, d'une certaine façon, à travers l'accompagnement et la mise en place d'un néo-cadre contenant, une tentative d'historicisation de la famille à travers l'achat de la maison. Mais la question centrale clinique reste posée, parce que quand même c'est intéressant. À partir du moment où il y a un lieu privé pour l'adolescent, il faut qu'il soit sous le regard d'eux. Il faut qu'il y ait un minimum d'emprise, de regard, sinon il va disparaître. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Sinon, il y a le risque de la mort qui ressurgit. Peut-être pas de l'adolescent dans sa maladie elle-même, mais dans la mort groupale qui traverse cette famille.
La disparition du groupe.
La mort du groupe. Enfin, le risque de la mort familiale. Voilà. Et c'est des questions cliniques que je voulais te poser, parce que c'est des questions que je rencontre, moi, avec les pathologies somatiques chez l'enfant grave. C'est cette question qui est posée. Comment arriver à opérer un processus séparateur? Ou la question de la perte. Je dirais même pas du deuil, mais la question de le processus de la perte interne est posé. Voilà, ce sont des questions que je vous posais.
Merci beaucoup. Ça fait beaucoup penser. Justement, j'ai beaucoup apprécié l'idée de passer au registre psychologique, hein, et essayer par tous les moyens de travailler dessus. Ça nous a tardé sur des causalités qui sont mécaniques en quelque sorte. Je crois que on n'a pas du tout fonctionné comme ça. On n'a jamais essayé de comprendre. Même si moi, je pense qu'en général, l'approche transgénérationnelle et familialiste permet de donner des indices un peu plus certains sur les difficultés carrément physiques, biologiques, les troubles somatiques. Je pense que là, on pourrait voir un certain nombre de choses, mais les indices sont multiples dans cette famille. Concernant tout ce qui tourne autour de la mort et de la séparation, notamment de la séparation. Avoir un enfant, c'est aussi se séparer de son passé générationnel, c'est aussi laisser tomber définitivement un peu plus ou définitivement, c'est à différents degrés de symbolisation, ses propres parents.
Mais est-ce que là, ça a été possible? Il y a eu la naissance, parce que là, effectivement...
C'est-à-dire que paradoxalement, effectivement, à travers la maladie, et la mère qui probablement était dans une position d'un deuil impossible avec sa propre mère, lui a permis de revenir à la maison et lui a donné un rôle de mère, notamment auprès de René, c'est depuis très petit. C'est-à-dire que subitement, là, on voit un phénomène assez fréquent chez les mères qui donnent leur enfant à leur propre mère. Et ça s'est concrétisé de cette façon-là. Et c'est également... Et probablement au niveau du père, ce qui est apparu là, c'est que lui aussi, il s'est senti un enfant de cette belle-mère, ce qui est souvent rare. Hein? Et ça, il a disparu toutes les questions habituelles des conflits. Il y avait des conflits, il y avait beaucoup de conflits, mais ils avaient une façon très particulière de se servir des défenses. Et je crois que je souligne cet aspect dans des cas de cette nature, et qu'il y a des défenses qu'il faut savoir respecter, et qu'il y a des défenses qui ont une fonction constructive et qui ont une fonction réparatrice, et notamment là, tout ce qui tourne autour du clivage et du déni et ou des refoulements qui me paraissent qu'ils ont eu un caractère très important. Et Ferenczi le disait déjà dans ses travaux sur le traumatisme et combien il est important de pouvoir et de permettre que ces défenses et s'instaurent et qu'elles puissent peut-être se transformer. La grande modalité des transformations, c'est certainement la narrativité, c'est-à-dire prendre contact avec son histoire, avec celle des autres, et revenir au passé. Là, c'est un vaste chantier qui bouleverse beaucoup de nos données concernant ce qui est la défense. On a essayé de préserver les défenses. Alors, pour revenir au problème de l'angoisse des séparations, c'est évident, il crie fort à tous ces problèmes, mais acheter une maison, c'est aussi se séparer de son passé et de tout ce qui est le passé. Et je crois que là, effectivement, tout souligne des choses très importantes. Parce que dans la maison, on peut construire l'histoire autrement. On peut la situer autour de certains actes, de certains objets qu'on peut mieux placer, qu'on peut mieux structurer.
C'est d'abord.
Ce travail, c'est-à-dire qu'en même temps, pendant la thérapie familiale, ils arrivent, certes, pour parler de René, mais ils disent avec ces deux personnes-là, on essaie, mais il faut construire une histoire. Ils vont la construire progressivement. René va revenir lui aussi interroger à travers son corps des failles, mais en même temps, il y a une maison qui se crée. Et à partir de là, ils gardent quelque chose à travers vous du passé. Et ils peuvent aussi construire un présent futur. Ils commencent beaucoup plus à être créatifs, beaucoup plus. Ils ne sont plus pris, même si on sent beaucoup d'amour, on sent beaucoup de liens entre eux. C'est un lien au départ qui apparaît très serré. Comment vont-ils s'en défaire? Comment vont-ils s'en séparer? Et c'est ça qui est intéressant dans le travail que vous proposez. C'est cette écoute, ne pas être intervenant du manifeste, hein, et d'aller travailler. On écoute et on avance. Moi, j'entends bien. Alors, en même temps, vous avez votre vécu de, tiens, comment font-ils pour avoir cette maison? Comment, ça me rappelle quelqu'un qui achetait un nouvel appartement, on lui demandait des questions sur sa maladie, etc. Bon, mais eux, c'est là, et c'est comme si, à un moment donné, les thérapeutes sont eux-mêmes pris par la capacité créatrice de cette famille, et qu'ils continuent, ils embrayent, ils sont là dans ce qui continue. Moi, je trouve ça très intéressant du travail que nous proposons. C'est-à-dire de ce travail d'être dans une continuité. Discontinuité, continuité. Je crois que c'est peut-être banal, mais je crois que c'est très important que nous l'entendions.
Question à la salle.
Oui, peut-être. Malheureusement, il y a beaucoup de questions. Allez-y.
Anna Maria. Aïe.
Maintenant, ça va, maintenant. Merci Alberto, c'est réellement, je suis enthousiasmé de ta communication parce que c'est extrêmement brillante et profonde dans le même temps. Et la chose que j'ai pensée, pour être très brève, je me suis rappelé le travail de Harold Searles à propos de the non-human environment, l'ambiance non-humaine. Et j'avais pensé que quand tu parles du fait que la maison familiale a aussi une fonction d'identification, c'est très important parce que aussi les psychotiques s'identifient avec l'ambiance non humaine. C'est un niveau très important que nous pouvons utiliser aussi thérapeutiquement.
Absolument.
Pas seulement sur le plan diagnostique, mais aussi thérapeutiquement. Ça signifie que la maison familiale, aussi la maison familiale des psychotiques, est toujours bouleversée, toujours en désordre, toujours pleine de garbage, de poubelles, no? Toujours. Et quand les psychotiques commencent à améliorer, ils commencent à la mettre en ordre. Et la famille commence à mettre en ordre. Et je pense que tu nous montres un niveau d'identification possible, aussi sur le plan thérapeutique, aussi avec les familles des psychotiques. Merci.
Oui. Merci beaucoup de nous rappeler l'importance des rapports des familles des psychotiques aux objets. Et ils sont collés aux objets et il y a effectivement les patients psychotiques, pas seulement les patients psychotiques. C'est-à-dire que plus on est dans un registre archaïque, moins symbolique, les objets acquièrent eux-mêmes une dimension proto-symbolique en quelque sorte. Et ce que l'on peut comprendre, notamment on l'avait déjà étudié au colloque précédent et sur qui a eu lieu à Lyon, sur les animaux domestiques, parce que Serge s'en parle, ça vient à propos, c'est-à-dire qu'on peut établir avec ces objets ou ces animaux domestiques des rapports qu'on ne peut pas se permettre avec les humains et qu'on ne peut pas permettre aux humains d'avoir avec nous. Parce que c'est ça, on est problématique du psychotique. Il est tellement dans une problématique des conflictuelles avec le monde que l'autre, je ne peux pas être avec l'autre ni symboliser des choses avec lui. Et comprendre cela me paraît extrêmement important parce que ça nous donne des instruments de compréhension et on peut travailler dessus, je crois. Chose que je vous encourage vraiment, j'ai beaucoup appris en faisant des thérapies familiales chez les gens, dans les maisons, chez eux. Et j'ai beaucoup observé, et ça m'a une des sources de mon intérêt pour le travail avec les familles. Et on voit des choses tout à fait étonnantes, et comment derrière ces désordres et cette folie dans la distribution de l'espace, il y a quand même un autre ordre qui nous sollicite et nous interroge, et auquel il faut aborder, et verbaliser éventuellement, utiliser d'autres moyens pour l'aborder. Mais merci beaucoup de ta question.
Bon, on vous remercie beaucoup de pouvoir tempérer vos questions, c'est-à-dire de ne pas pouvoir les poser, parce qu'on a vraiment dépassé un temps important. Et si on veut organiser la journée, il faut arrêter maintenant. Mais je crois que vous aurez tout le temps de reposer des questions dans les différents lieux.
Quelques points d'organisation.